Comment concilier développement local et protection de la nature? Il faut absolument avoir un point de conciliation, de manière à ce que nous protégeons notre environnement, mais que nous fassions vivre nos populations.
Cet environnement, c'est celui de la forêt de Ziama, en Guinée. C'est un voyage fascinant que l'on vous propose aujourd'hui après l'épreuve collective que l'on vient de traverser. Ces semaines d'incertitude, d'enfermement, de confinement, durant lesquelles le voyage n'appartenait plus qu'à nos rêves. Alors faisons ce voyage radiophonique ensemble. Nous partons pour l'est de la Guinée-Conakry. Dans une forêt classée de 120 000 hectares, c'est un trésor. Il a été reconnu réserve de la biosphère par l'UNESCO. La forêt de Ziama est la plus importante des forêts humides d'Afrique de l'Ouest. Elle abrite 1300 espèces de plantes, plus de 500 espèces animales, une vingtaine protégées, car menacées, le chimpanzé, la panthère, l'antilope, mais aussi l'animal le plus imposant de la forêt. Les éléphants et leurs barrissements se méritent après des heures de marche pour les apercevoir dans la forêt de Ziama. Et c'est ce que l'on va partager avec vous, cette expédition, pour vivre ce moment très privilégié face à un animal qui fait plus de 2 tonnes pour un adulte. L'éléphant est l'emblème de la Guinée-Conakry.
Normalement, les éléphants, ils se cachent, ils sont très craintifs. Mais ces deux-là, c'est très curieux parce que eux, ils sont à l'aise, plutôt à l'aise dans le, autour des villages qu'en pleine forêt.
Mais les confins de la forêt de Ziama sont habités. Et c'est là tout le défi pour les autorités, concilier deux nécessités absolues. D'abord, celle de faire vivre les habitants très pauvres de ce secteur. Ils n'ont pour richesse que la forêt. Et de l'autre côté, il leur faut protéger les ressources qui n'ont pas encore été pillées entre la coupe illégale de bois, mais aussi le braconnage. Sur les traces des derniers éléphants de la forêt de Ziama, c'est un reportage de Carole Valade et Raphaël Kraft.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Ça va bien?
Bien et vous? Enchanté, Raphaël
ça va?
Kraft.
Bonjour monsieur Carole Valade.
Ça va bien?
Très bien, vous ça va?
Donc, on est venu avec l'équipe de reportage pour des interviews avec la population.
Je vais voir dans le village tous ceux qui sont là, ils vont venir.
Il n'y a pas peur.
Au village de Malueta, l'assemblée du village s'est réunie pour palabrer avant de répondre à nos questions.
Monsieur,
oui.
Bon, le neveu du village va faire maintenant les petites bénédictions. Après, on va commencer le travail.
Le neveu du village?
Le neveu du village, il va faire la bénédiction.
D'accord.
Merci. Il a fini de faire la bénédiction. Si lui, tout ce qu'il a dit, s'il peut respecter, il va répéter devant vous. En français.
Bon. Merci. Après avoir réussi la bénédiction du neveu du village, le neveu du village est parvenu à nous dire ainsi que vous les étrangers, venant de loin, venant de près, qu'il vous souhaite les bienvenus parmi les citoyens de Malueta. Tout le village entier vous prie vraiment à les aider pour qu'il y ait moins de difficultés dans cette localité. En tout cas, tous les citoyens, vieilles et femmes de ce village sont très très contents de votre arrivée dans ce village Malueta. Merci.
Mmh. Zézé Onivogui, vous êtes le directeur administratif du district de Malueta.
Oui, monsieur.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est l'importance de la forêt de Ziama pour le village de Malueta?
Bon, cette forêt nous apporte beaucoup de choses. Grâce à cette forêt, en tout cas, nous vivons aisément. L'une des importances de cette forêt, nous avons des flores, des faunes et des gros animaux dans cette forêt classée. Donc, pour nous, il s'agit de lutter et éviter de faire de dérive dans cette forêt. Éviter l'abattage des gros animaux dans cette forêt, tels que l'éléphant.
Il y a aussi les plantes médicinales, il y a aussi les poissons,
oui,
il y a aussi...
Effectivement, il y a certaines feuilles là-bas, certains arbres là-bas, donc vraiment, qui sont utilisables pour la santé des hommes.
Et la chasse. Et...
Oui, effectivement, parfaitement, vous avez pleinement... La chasse, oui. La chasse est interdite.
Alors, pourquoi tout le monde rigole?
La chasse est interdite. La chasse, dans la forêt classée, elle est interdite. Il faut, avec les éco-gardes, il faut qu'il y ait une tolérance. L'habitant qui est tout près de cette forêt classée, s'il n'y a pas de tolérance, comment il va se nourrir? Comment il va soutenir ses enfants? Donc, il y a tout ça. Donc, il faut une marge de tolérance du côté des éco-gardes.
Merci beaucoup.
Dieu merci.
Le village de Malueta est situé en lisière de la forêt de Ziama. Il est traversé par la route nationale numéro 1 qui relie cette région isolée de la Guinée à la capitale, Conakry. Ces quelques centaines d'habitants vivent dans des maisons en pisé ou en béton pour les moins pauvres. Il n'y a ici, et comme dans la majorité des villes et villages de Guinée, ni eau courante, ni électricité. Nous sommes sous la bonne escorte de plusieurs agents du corps paramilitaire des conservateurs de la nature. Ils nous accompagnent dans chacun de nos déplacements à Ziama. Ce précieux sésame, nous sommes allés le trouver auprès de leur chef, Bareko Ivogui, qui dirige le centre forestier de Sérédou, à quelques kilomètres de là.
Concrètement, en quoi ça consiste, surveiller la forêt de Ziama? À quoi est-ce qu'il faut faire particulièrement attention? Sur quoi travaillent vos hommes?
Surveiller la forêt de Ziama suppose qu'il faut contrer toutes les velléités d'attaque d'où qu'elles viennent. Autrement dit, il faut empêcher le braconnage. Il faut empêcher la coupe abusive du bois. Il faut empêcher les travaux champêtres qui sont de nature à déblayer toute la superficie forestière pour juste avoir quelques kilogrammes de céréales qui ne servent absolument à rien par rapport à la ressource qu'on est en train de dévaster. Et en plus... collaborer avec les populations riveraines, parce que la préservation de la forêt ne se fait pas dans la forêt, mais elle se fait hors de la forêt. C'est les populations riveraines qui, en plus de leur terroir villageois, qui actuellement ne produisent plus rien en termes de culture, osent aller sur les terres fertiles et qui sont stockées à l'intérieur de la forêt classée.
Et ça, c'est donc interdit et vous luttez contre cette installation?
Oui, oui. Il y a d'autres activités qui sont complètement interdites. Cependant, il y en a d'autres qui sont réglementées. Tout ce qui est le prélèvement à caractère commercial, c'est interdit.
Et pourtant, ces populations qui habitent autour de la forêt, ces habitants qui sont là, ont besoin de sources de revenus?
Naturellement. Ils ont quand même leur terroir villageois qui, encore, si c'est très bien géré, peut encore largement leur procurer leur nourriture et leur bien-être. Un vrai problème existe en termes de forêt chez nous. C'est comment concilier développement local et protection de la nature. D'un côté, nous sommes obligés de protéger notre environnement. Ça, c'est clair. Mais nous devons comprendre aussi que c'est seulement cet environnement qui permet à ces milliers de personnes de vivre. Il faut absolument avoir un point de conciliation, de manière à ce que nous protégeons notre environnement, mais que nous fassions vivre nos populations.
Avec quels moyens est-ce que vous protégez cette forêt?
C'est là où se situe le véritable problème, parce que si vous demandez à votre agent d'avoir des résultats sur le terrain, il faut lui procurer les moyens de le faire. Mais malheureusement, au stade où nous sommes, avec 32 villages riverains pour 10 postes de surveillance, avec 64 agents forestiers, je n'ai qu'une moto aujourd'hui. Je n'ai absolument rien qui me permette d'être efficace.
Village de Sibata 2, à l'orée de la forêt de Ziama, avec l'équipe de suivi des éléphants.
C'est ça.
Alors là, on va pénétrer dans la forêt.
Dans la forêt, on suit cette trace, mais on ne parle pas. On va tout doucement, on observe.
Est-ce qu'il y a des instructions particulières des recommandations particulières lorsqu'on est face à un éléphant?
Oui, il y a des recommandations. Quand on suit ses empreintes, on voit s'il est agressé ou bien s'il marche tranquillement s'il n'est pas agressé.
S'il est face à nous, il faut rester toujours soudé. Mais dès qu'il y a un qui se déplace, il pense qu'on veut l'attaquer son petit. Donc il va offenser.
Merci beaucoup, allons-y.
C'est ce qu'on appelle crotte. Quand il fait le caca, c'est ce qu'on appelle crotte, c'est sa crotte.
Elle a l'air bien fraîche.
Elle est fraîche. Ça, c'est la crotte de la nuit. C'est la nuit, il a fait ça, c'est pas ce matin-là.
Vous n'avez pas besoin de faire la photo de la crotte.
On va faire une photo de crotte quand même.
Tout ça, ça démontre que c'est nouveau, il vient de quitter. Si peut-être on n'a pas la chance.
J'ai pris le point.
Attends, il va mettre chance. Vous voyez bien?
Oui.
Vous pouvez encore mieux approcher?
Non, c'est bien.
Il est parti par là?
Oui, il est parti par là. Vous voyez cette trace? Et voilà comment il a brûlé l'arbre ici.
C'est très nouveau d'abord.
Vous voulez dire très récent?
Vous dites?
Très récent cette trace.
Oui, c'est très récent. C'est très récent.
C'est-à-dire?
Il vient de passer, ça ne fait pas longtemps.
Une heure? Une demi-heure?
Oui, dans une heure de temps, il a passé. C'est une espèce, quand on le suit, avec notre odeur, ça ne fait que progresser. Il est sensible.
Donc il faut aller plus vite que lui.
Oui, il faut qu'on tous qu'on suit sur lui. Une fois qu'il repère nos odeurs, il ne fait que progresser.
Il nous fuit.
Oui, il nous fuit.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Pendant près de 10 ans, les pachydermes de la forêt de Ziama n'ont plus reçu ni l'attention ni le financement d'aucun bailleur international. Il a fallu attendre 2015 pour que les gardes forestiers réinvestissent la forêt depuis l'arrivée d'une ONG britannique qui s'appelle Faune et Flore International.
Je m'appelle Alan Devereaux. Je suis conseiller technique ici à Cerredou pour Faune et Flore International.
Qu'est-ce qu'un éléphant de forêt ?
Il y a deux espèces d'éléphants. Il y a l'éléphant de savane qu'on connaît et l'éléphant de forêt, c'est un éléphant qui, comme c'est bien décrit, c'est un éléphant qui vit en milieu forestier. Donc, au point de vue caractéristique, un éléphant de forêt, c'est quand même un éléphant qui est un peu plus petit qu'un éléphant de savane. La coloration est un peu différente des éléphants de savane.
C'est-à-dire ?
Il est quand même un peu plus rougeâtre qu'un éléphant de savane. Les éléphants de savane, comme vous savez, ils ont une coloration assez gris et en plus avec des cornes moins longues.
Les défenses.
Donc c'est les défenses plus courtes parce qu'en fait, au milieu de la forêt, c'est quand même mieux de ne pas avoir les cornes, les défenses trop longues.
Nous avons marché pendant des heures à proximité du village de Sibata 2 sur les traces d'un jeune éléphant mâle accompagné d'un petit éléphant. Qui sont-ils ces deux éléphants ?
Oui, au fait, ça c'est nos éléphants un peu mascottes, c'est les deux éléphants. Au fait, on pensait pendant très longtemps que c'était un femelle avec son petit. Puis, un beau jour, quelqu'un a pris une photo, ça a bien démontré que c'était au fait deux mâles. On pense que c'est deux frères qui ont perdu leur maman, ils se sont mis ensemble.
Braconné,
sans doute, oui, c'est braconné. Une chose qui est très curieuse, c'est que ces deux éléphants, c'est comme s'ils recherchaient la communauté humaine. Normalement, les éléphants, ils se cachent, ils sont très craintifs. Mais ces deux-là, c'est très curieux parce que eux, ils sont à l'aise, plutôt à l'aise autour des villages qu'en pleine forêt.
Les gardes en tête ont intimé de s'arrêter et de faire silence.
Qu'est-ce que c'est ?
L'arbre là, c'est le fromager. Ils mangent ça beaucoup. Ils aiment ça beaucoup. À cause de ça même, ils peuvent être fréquents ici.
Les fruits du fromager que vous présentez là ?
Oui, c'est le fruit du fromager.
Ici, ce sont badigeonnés.
Donc là, on est face à un grand trou de 2 mètres sur 2, environ d'une profondeur d'un près d'un mètre.
Ils viennent se laver là-bas. Parce que quand il fait chaud, il y a la chaleur. Donc la chaleur les empêche. Ils viennent maintenant, à côté d'un bas-fond, là où il y a l'eau. Ils creusent, ils mettent la terre à souiller.
Un bas-fond, c'est un endroit comme un marigot.
En tout cas, c'est une zone humide.
C'est une zone humide.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le bas-fond. La terre mélangée avec de l'eau. Presque, c'est la boue.
Donc, on est sur la bonne piste.
On est sur la bonne piste. Ils sont à l'intérieur.
Qu'est-ce que c'est que ces chants et ces tam-tams qu'on entend ?
C'est à l'église. D'accord. C'est les chrétiens qui sont à la prière.
D'accord.
Nous sommes à côté du village.
Ok.
Bonjour monsieur.
Comment allez-vous?
Ça va monsieur?
Bonjour monsieur.
Ça va?
Ça va?
Ça va?
Oui.
Ça va.
Oui.
Bienvenue.
Merci beaucoup.
Ça va.
Voilà. Village d'Ablissou, à proximité de la forêt de Ziama.
Donc c'est le bureau du comité de gestion.
Okay, c'est un plaisir. Merci beaucoup de nous recevoir.
Oui, merci beaucoup, monsieur.
Ça nous fait plaisir d'être ici.
Oui, oui.
Merci de vous rencontrer.
Mon nom, c'est monsieur Ali Keïta.
Ali Keïta.
Oui.
Et votre fonction?
Moi, mon fonction, c'est cultivateur.
D'accord. Avant, donc, vous travailliez, vous cultiviez dans la forêt?
Avant, nous cultivions dans la forêt. On plantait là-bas, on faisait tout là-bas. Mais maintenant, on ne fait rien là-bas.
Pourquoi?
Bon, parce que actuellement, depuis, on nous avait déguerpi là-bas que la forêt ne nous appartient pas, que la forêt doit rester en intact, c'est pour cela aussi qu'on a laissé.
Et qu'est-ce que ça a changé pour vous, pour votre vie?
Bon, ce qui a changé notre vie, c'est la nourriture, parce qu'avant, on nourrissait bien, nos enfants se croisaient, mais maintenant, pas ça.
Qu'est-ce que vous cultiviez dans la forêt?
Nous cultivions dans la forêt riz, café, cacao, on avait tout ça dans la forêt.
Et pourtant, là, je vois beaucoup de café qui sèche sur le sol.
On a fait les cafés qui sont là tout dessus, ça, c'est hors de la forêt. Ici, les cafés que vous voyez là, ça, c'est hors de la forêt. Mais les cafés qui sont dans la forêt, rien n'a été entretenu. Tout est abandonné. On ne fait rien dans la forêt. On ne fait rien.
Et au moment où vous avez été donc déguerpi de la forêt,
oui.
Est-ce que depuis ce jour-là, il y a eu des formes de compensation? Est-ce qu'on vous a donné d'autres terres pour cultiver?
Rien, rien. Ils ne nous avaient rien donné comme la terre. Ils ne nous ont rien donné. Depuis qu'ils nous avaient déguerpi là-bas, rien ne nous avait donné. Toujours, c'est la souffrance qu'on est au-dessus, jusqu'à aujourd'hui.
Alors, au-delà de la propriété foncière, de la culture, il y a également les éléphants. Est-ce que c'est une nuisance pour vous?
Oui, les éléphants sont là. Ils nous fatiguent aussi.
Donc, pour vous, c'est vraiment un problème qu'il y ait les éléphants?
Vraiment, on a des problèmes des éléphants aussi. Parce que si on fait rire, les éléphants viennent, ils mangent. Si on fait rire, les éléphants viennent, ils mangent.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur.
Merci d'avoir répondu aux questions.
Merci. Je vous remercie beaucoup.
Moi, c'est Grobogi François Saifoulay. Je suis natif du village, je viens de Sibata 2.
Tout à l'heure, on est parti pister l'éléphant. Et à notre tour, on a trouvé tout un champ de bananiers, enfin, une partie d'un champ de bananiers dévasté. C'est le vôtre?
Oui, les bananiers, ça m'appartient. C'est une plantation qui appartenait à mon papa depuis quelques temps, quoi. Je suis né, j'ai vu le bananier. Mm-hmm. Maintenant, bon, il y a de cela une semaine que ces éléphants sont présents dans la zone. Mm-hmm. Moi-même, je suis un fan des éléphants, j'aime les animaux. Bon, c'est ma première fois de les voir, quoi. C'est un plaisir pour moi aussi de les voir. Mais ils sont là aussi, ça bouffe les bananes, ça fait des trucs, ça part dans les champs, ça fait un peu de dégâts.
Et vous estimez à combien les dégâts, là?
Moi, je ne peux qu'estimer qu'à mon niveau. Pour les autres citoyens du village, je ne peux pas estimer pour eux.
Oui,
pour moi, les bananiers, par an, nous pouvons estimer à une valeur de 15 millions de francs guinéens.
Donc ça fait 1 500 euros.
1 500 euros,
ouais. Effectivement.
Donc c'est beaucoup.
15 millions, c'est beaucoup pour nous villageois, parce que c'est grâce à ces produits que nous subvenons à nos besoins.
C'est à peu près un an et demi de salaire de quelqu'un de la fonction publique.
Fonction publique. Oui. Ce que j'aimerais dire à ceux qui sont là pour la sauvegarde de ces animaux, qu'ils viennent à nos secours. Et s'ils viennent à nos secours, c'est grâce à nous aussi, nous pouvons sauvegarder la vie de ces animaux. Mais si ces animaux dévastent, font des trucs qui vont à l'encontre de nos travaux, nous aussi nous serons énervés, ça va nous obliger à les chasser. Et si nous les chassons, ils vont s'éloigner de la zone. Et c'est un peu, c'est sûr que si nous ne voulons pas ça, nous voulons la sauvegarde de la faune. Oui, c'est ça.
Un premier comptage effectué par WWF en 1991 faisait état de la présence de 118 éléphants à Ziama. Puis en 2004, un nouveau recensement, quoique contesté par certains spécialistes, portait ce nombre à 214. Cette augmentation s'expliquerait par la migration d'un grand nombre d'éléphants venus du Libéria pour échapper aux guerres civiles qui firent rage de 1989 à 2003.
Des pleurs d'enfants, des scènes de panique et des milliers de personnes jetées sur les routes, au sud de la Guinée, au croisement des frontières du Libéria et de la Sierra Leone, les milices font un carnage et la guerre s'installe inévitablement.
La pression démographique provoquée par l'arrivée massive de réfugiés libériens, la circulation d'armes de guerre, l'instabilité politique de la Guinée et l'absence d'institutions de protection de la nature qui laissent libre cours au braconnage et à la coupe illégale de bois expliquerait la chute drastique du nombre d'éléphants en forêt de Ziama. Il n'y en aurait aujourd'hui plus que 15.
Je m'appelle Vincent Leblanc, je suis chargé de recherche à l'IRD, anthropologue. J'étudie les relations entre les habitants et la faune en Guinée, en Côte d'Ivoire, et plus spécifiquement entre les hommes et les chimpanzés, voire les éléphants, selon les données d'observation disponibles. Il peut y avoir plusieurs raisons effectivement qui expliquent la baisse importante de la population d'éléphants dont vous venez de parler. Il y a d'abord une cohabitation rendue plus difficile du fait de l'arrivée importante de populations de réfugiés dans la région. Si les activités agricoles se sont beaucoup développées en périphérie du parc et que les éléphants ont tendance à y sortir, comme c'est fréquemment le cas, les gens auront plutôt tendance à tâcher de s'en débarrasser. Il y a un deuxième facteur qui est à prendre en compte, qui est l'importance économique que représente l'ivoire de l'éléphant et les contextes troubles et troublés comme le sont ceux des conflits, des mouvements de population dans ce type de contexte favorisent évidemment ce type de commerce, le commerce de l'ivoire. Donc c'est sans doute une conjonction de facteurs qui peuvent expliquer la baisse drastique de la population d'éléphants toute récente dont vous venez de parler.
Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est avec les derniers éléphants qui restent, qui font partie des tout derniers éléphants même de la Guinée, la cohabitation n'est pas évidente avec les habitants. Bah, c'est un phénomène, j'imagine, qu'on voit partout.
Oui, en fait, dès que la faune ou certains de ces éléments vont poser des problèmes économiques, effectivement, les habitants ont plutôt tendance à chercher à s'en débarrasser. Malgré tout, le problème, la difficulté pour les acteurs de la conservation, à mon sens, dans ce type de contexte, c'est d'arriver à délimiter, à définir, tout en tenant compte de l'intérêt de cette population humaine plus importante dans cette zone suite à la guerre au Libéria, d'arriver à définir un domaine vital qui puisse satisfaire les besoins des éléphants et des habitants. En fait, c'est un problème d'occupation des sols et un problème de répartition des usages que l'on peut en faire. La particularité de l'éléphant, c'est qu'effectivement, c'est une espèce qui a besoin de domaines vitaux extrêmement grands et qui, dans des situations d'augmentation de la densité de population humaine, comme c'est le cas autour de la forêt de Ziama récemment, va conduire à des situations de friction constantes, extrêmement compliquées à aménager.
Comment on peut faire pour que tout le monde vive ensemble, quoi, entre les hommes qui ont besoin de se nourrir, les éléphants qui ont besoin de traverser, d'avoir cet espace vital dont vous parlez? Elle vous semble soluble?
Oui, il y a tout de même des pistes de solutions. Il faut d'abord que les acteurs institutionnels de la conservation, que ce soit les écologues, les personnes responsables des politiques environnementales, les administrations forestières, accepte parfois de devoir faire des choix. Si le programme Agir que j'évoquais concernant le nord-ouest guinéen tout à l'heure s'est focalisé sur le chimpanzé et sur l'éléphant, en fait ce n'est pas un hasard, c'est parce que ce sont deux espèces qui ont une importance symbolique, ce sont deux emblèmes des actions de conservation. Donc on a tendance à penser les actions de conservation à partir de ces espèces qui attirent une sorte de capital sympathie important, notamment auprès du public occidental, non pas des gens qui habitent au quotidien avec ces animaux sur leur terroir. Et donc je pense qu'il y a un besoin d'une réflexion accrue sur le type de nature qu'on veut protéger, pour qui et dans quel but.
La patrouille des éléphants, sa chenille de feu, sa vent, la trompe en avant, les oreilles au vent, et circule militairement, et circule militairement.
Nous débouchons sur une rivière dont le cours est entravé par un barrage artisanal fait de lianes et de bois et prolongé par des nasses destinées à recueillir le poisson. Les gardes qui nous accompagnent s'arment de leurs machettes pour le détruire.
Venez ici d'abord, envoie la machette ici,
Donc à la base du barrage sont installées des nasses dans lesquelles vont se coincer, on l'imagine, les poissons.
Les consommer comme il faut. Vous voyez ça? Ça n'a pas l'âge d'être pris. Comme ça, là, on peut le libérer. Peut-être qu'il est sauvé.
Il y a d'autres même. Ils sont morts.
Il y a plus de vie dans ça. Ils sont morts. Des petits comme ça.
Il faut les tous lancer dans l'eau.
Ils sont morts.
Ils ne sont pas morts. Lancez-les seulement dans l'eau.
On dirait des petites perches.
Ça coule de ça, c'est interdit généralement. Parce que ça là, on ne peut pas envoyer ça à quelqu'un. Bon, la famille aussi ne peut pas vivre de ça. C'est insignifiant. C'est des interdits de la forêt classée. On peut faire peut-être ailleurs, mais en forêt classée, c'est interdit. Normalement, quand ils le font, après leurs besoins, ils ouvrent encore le passage pour l'eau. Mais laisser comme ça caler, c'est interdit. S'ils trouvent les gens ici, on les prenne, on les envoie à la base. Pourquoi ils l'ont fait, pourquoi ils ne détruisent pas, ils vont nous dire.
J'imagine que les populations locales ne vous aiment pas toujours beaucoup.
Oui, bon, ils ne nous aiment pas beaucoup, surtout ceux qui vivent comme ça, là. Ils ne peuvent pas nous aimer. Mais avec peut-être votre présence et maintenant beaucoup de sensibilisation, c'est bon, ça commence à aller un peu.
Une question qui n'a rien à voir, une question peut-être un peu intime.
Oui.
Combien gagnez-vous par mois, vous, en tant qu'agent forestier?
Bon, l'État nous donne ça. C'est de commencer à 1 million 200 jusqu'à 1 million 2 millions le barème.
D'accord. Donc entre 120 euros et 200 euros par mois.
Ça peut être comme ça, oui.
D'accord. Et vous arrivez à vivre avec ça par mois?
Pas tellement. On a besoin des mesures d'accompagnement pour qu'on puisse vivre avec ça. Sinon, les 120 euros, c'est insignifiant pour nous. C'est difficile.
Ouais.
Donc, on se débrouille. On a besoin encore plus d'apports, des projets, des ONG pour combler un peu certains trous d'ici la fin du mois.
C'est-à-dire que le week-end, normalement, vous allez travailler au champ ou ce genre de choses pour arrondir les fins de mois?
L'année dernière, j'ai fait un peu de champ. Le week-end, je partais là-bas. Bon, ça m'a un peu aidé à supporter ma famille en matière de nourriture. Vous savez, si quand il y a le riz à la maison, c'est l'aliment de base chez nous. Bon, le peu maintenant que tu peux avoir pour donner comme dépense pour les condiments, ça ne serait pas énorme sur l'homme. Ça permet peut-être à amortir certaines situations.
€120 par mois permettent de manger 3 fois par jour, c'est vrai, mais c'est insuffisant pour payer son loyer, pour assurer la scolarité des enfants. Les éco-gardes sont donc constamment à la recherche de revenus complémentaires. Carole Valade et Raphaël Kraft ont dû, par exemple, les défrayer pour accéder à cette forêt. Avec un si maigre salaire, la tentation est grande de fermer les yeux contre rémunération sur des activités illégales, comme la coupe de bois ou le braconnage, sans y participer, mais en laissant faire.
Quand j'étais braconnier, s'approcher des éléphants, c'était très dangereux. Ma technique alors, c'était de suivre leurs traces. Plus le trace était grande, plus les défenses étaient très grandes, plus c'était bon pour mes affaires.
Moi, j'étais fermier. Ça ne me suffisait pas pour nourrir ma famille.
trouver des pistes de développement viables est donc une nécessité, que ce soit pour l'homme et pour les animaux. Nous retrouvons Alain Devrel, le spécialiste des éléphants de l'ONG Faune et Flore Internationale.
Interception sur France Inter.
Le modèle dominant aujourd'hui dans la construction de la conservation d'une forêt, c'est notamment ce qu'on appelle l'écotourisme, c'est-à-dire de trouver une activité compensatoire aux personnes qui vivaient de la forêt. Le problème, c'est qu'ici, l'écotourisme, il demanderait l'ouverture d'un aéroport à Nzérékoré, qui est la deuxième ville la plus grande du pays. Il n'y a pas d'aéroport. Enfin, s'il y a un aéroport, mais il n'est pas desservi. La route pour venir de l'aéroport international de Conakry est dans un état pitoyable. Il faut 2 jours pleins pour venir. Ce sont des défis gigantesques pour 12 éléphants.
Ouais, ça c'est tout à fait vrai. L'infrastructure n'est pas maintenant sur place pour avoir un écotourisme florissant. Mais quand même, depuis 3 ans maintenant que je travaille ici, je vois de plus en plus de visiteurs qui viennent des pays étrangers, même les Guinéens qui commencent à venir vers le Ziama. Et le fait que nous avons les éléphants, bien que c'est en très petit nombre, attire beaucoup de monde. Si on demande quelqu'un à Conakry...
Excusez-moi, beaucoup de monde.
non, c'est pas. On peut pas dire que tout le monde va vivre de ce tourisme, mais c'est presque de zéro. Peut-être on a eu, je sais pas, une centaine de personnes qui est venue l'année dernière. Donc c'est déjà une grande amélioration. Si on demande à quelqu'un à Conakry, est-ce que vous savez qu'il y a des éléphants en Guinée? Ils ne savent même pas que ça existe. Donc,
alors que c'est l'emblème national.
Oui, c'est l'emblème national, même de leur équipe de foot, c'est l'emblème. Ils s'appellent les éléphants, je crois. Donc,
les Stylis, oui.
Oui, c'est ça. Et donc, pour eux, c'est vraiment une grande surprise d'apprendre qu'il y a encore les éléphants en Guinée. Donc, ce serait le petit pas pour arriver à avoir un tourisme qui va générer quand même les revenus. Mais on peut espérer que si c'est bien géré, un jour, ça pourrait avoir. Je pense que si les gens pourraient venir ici pour voir ce qui se passe, on pourrait peut-être avoir un espoir de conserver le peu qui reste, parce que c'est vraiment, ce sont les derniers bijoux de l'Afrique, voire la Terre, qui sont dans cet état-là. Donc c'est très important.
Mais selon Moriaba, agronome à l'Institut de recherche agronomique de Guinée, une autre alternative, plus réaliste, existe.
C'est le développement des filières porteuses. À l'intérieur de la forêt de Ziama, par exemple, il y a ce qu'on appelle le poivre noir, le pipé guinéensis. Le pipé guinéensis, qui est récolté à l'état sauvage, dans la forêt, séché et exporté vers les pays limitrophes, le Sénégal, le Mali et autres. Alors que le pipé guinéensis peut être cultivé. Et un seul kilo de poivre est vendu au prix minimum à 90 000 francs, 100 000 francs guinéens. Et un hectare de poivre peut te donner au moins 1 à 2 tonnes.
9-10 euros.
9-10 euros, vous imaginez. Alors que le poivrier que le paysan va chercher en forêt classée, c'est une liane, elle grimpe. Il ne va pas grimper l'arbre, il coupe liane au-dessous et il la tire. Cependant, si il coupe, c'est fini, c'est une plante pérenne, elle meurt. Si on la cultive, le poivrier sera là, il pourrait chaque fois la récolter. Donc c'est déjà une action, voir ce que le paysan va chercher à l'intérieur de la forêt, comment la démultiplier et la remettre dans ses systèmes agroforestiers.
Donc entre les conservateurs qui plaident pour une fermeture totale, une exclusion totale de la forêt, et les habitants qui disent « c'est chez nous, on doit vivre, on doit exploiter », vous vous situez un peu entre les deux, en quelque sorte vous plaidez pour une mise en valeur durable de la forêt.
Une mise en valeur durable de la forêt, je dirais. J'ai eu, dans les années 2004-2005, on a eu à élever des plants forestiers en pépinière. Nous étions très surpris de voir des paysans qui venaient demander les plants forestiers achetés et plantés dans leurs caféières et leurs cacaoyères. Et nous avons eu la visite d'un ami français qui était là. Il nous dit, mais tiens, je n'en ai jamais vu. Pour la première fois que je vois des paysans qui achètent des essences forestières pour les planter pour eux-mêmes. Et ça, c'était à différentes catégories d'âge. Il y avait un plus vieux de la soixantaine. On lui dit, mais tu plantes un arbre de bois rouge, mais tu crois l'exploiter quand? Il dit, c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants à venir.
très déçus et tout crottés après 7 heures de marche et alors que nous venons de rentrer à Serédou, notre camp de base, les éco-gardes nous appellent pour nous annoncer l'heureuse nouvelle. Les deux éléphants se trouvent à l'exact endroit de la Nationale 1 où nous avons abandonné leur traque. Ils sont dans une clairière, à quelques mètres du bord de la route.
C'est merveilleux.
Voilà, ça c'est les deux qu'on laisse essayer.
Nous nous approchons, au plus près d'eux, micro tendu. Lorsque le plus grand, se sentant menacé par ce qu'il prend pour une arme, entreprend de nous charger.
Vous avez vu maintenant l'éléphant? C'est les deux. Depuis ce matin, les deux éléphants qu'on laisse, c'est ça. On vous a dit qu'il est là, on va les trouver. Là, je vois là.
Qu'est-ce que vous lui dites?
J'ai dit de venir, on va prendre votre photo. Vous êtes beau à voir. Ils se sont, on a passé la journée derrière vous. Vous êtes beau, venez, on va prendre votre photo.
Ils vous comprennent?
Tout ce que, même si en français, il était là-bas, jusque-là. Il était dans la zacée en brousse là-bas. On appelait au fur et à mesure, il venait pas.
Et pourquoi a-t-il été agressif, notamment à mon endroit, parce que...
Non, si, pour l'être agressif, il n'est pas agressif. C'est dans les conditions, les braconniers les agressent. Sinon, il n'est pas agressif.
Il n'est pas agressif parce que vous avez la peau, vous êtes de teint clair, et puis vous n'êtes pas habitué avec eux. D'accord. Mais nous, nous sommes habitués avec eux, ils nous connaissent. C'est pourquoi quand ils vous avez fait comme ça, vous êtes un corps étranger, c'est dès aujourd'hui qu'ils vous voient. C'est pourquoi quand vous vous approchez, il fait ouh, sinon moi je peux m'approcher à côté de lui, il ne va pas crier comme ça là.
Il est raciste.
Voilà, il est raciste, effectivement. Parce que nous on le suit souvent, ils nous connaissent déjà.
Et donc ceux-là, ces deux-là, ils ont cette particularité, vous l'avez dit, vous pouvez les approcher. Mm-hmm. Ils sont habitués à l'homme.
Ils sont habitués à l'homme.
Mais ce n'est pas le cas des éléphants, normalement.
Ce n'est pas tout, c'est les deux-là seulement. Sinon, évidemment, y en a beaucoup. Mais c'est les deux-là qui sont habitués avec les hommes. Là où on était là, il y a trois. Il y a un qui est dedans, c'est un femelle aussi. Il est celui qui est masseux. Lui, il est gros.
On peut retourner voir l'éléphant, c'est possible, l'appeler?
On peut aller encore les appeler, venir, on peut les voir encore.
Allons-y. L'éléphant s'est approché du village. Des dizaines d'enfants, quelques adultes sont sur la route. La guiche. Oh!
Sur les traces des derniers éléphants de la forêt de Ziama, Carole Valade et Raphaël Kraft ont signé ce reportage, diffusé pour la première fois en juillet 2019. Violaine Ballet a réalisé cette émission, mixage Jean-Philippe Jeanne. La semaine prochaine, nous vous proposons une rediffusion d'une émission sur ce qui a changé, ou pas d'ailleurs, après la vague MeToo dans les rapports hommes-femmes. À la semaine prochaine.